Merci beaucoup d'être venu. Le secrétaire général va vous présenter le rapport annuel et puis, comme à l'habitude, il sera prêt à répondre à quelques questions. Bonjour, merci d'être venu pour le lancement de ce rapport annuel. Je voudrais commencer par vous souhaiter mes meilleurs voeux pour l'année qui démarre. 2014 n'a pas été une bonne année pour la sécurité européenne. En fait, cela a été une année noire au sud. L'extrémisme violent est à nos frontières, causant une vague de turbulences à travers l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient et alimentant le terrorisme dans nos rues. À l'Est, la Russie suit un schéma inquiétant, utilisant la force militaire pour annexer la Crimée, pour déstabiliser l'Est de l'Ukraine et pour intimider ses voisins, et ce, au mépris du droit international. Donc, notre environnement sécuritaire a fondamentalement changé. Ce rapport annuel montre que nous sommes en train de nous adapter pour faire face à ces changements et s'assurer que l'OTAN reste forte. Je voudrais vous donner quelques chiffres et éléments factuels dans des domaines clés. Premier chiffre est celui de 200. L'année dernière, nous avons tenu 200 exercices de l'OTAN et des pays de l'OTAN. Tous les 2 jours, un exercice a démarré à terre, en mer et dans l'espace aérien. Ces exercices vont continuer. Nous sommes en train de renforcer l'état de préparation de nos forces. Le chiffre suivant est celui de 400. L'année dernière, les aéronefs alliés ont intercepté des appareils russes à plus de 400 reprises. Plus de 150 de ces interceptions ont été menées par la mission de police du ciel de la Baltique de l'OTAN, 4 fois plus qu'en 2013. Donc nous restons vigilants. Chiffre suivant, 6. Nous maintenons une présence continue de nos forces par rotation dans la partie orientale de notre alliance. Quand les ministres de la Défense vont se réunir la semaine prochaine, nous allons décider de la taille et de la composition de notre nouvelle force fer de lance et sur la mise en place d'unités de commandement et de contrôle de l'OTAN dans 6 pays alliés à l'est de notre territoire. Nous sommes donc en train de concrétiser le plan d'action pour la réactivité décidé au Pays de Galles. Ce sera le plus gros renforcement de notre défense collective depuis la fin de la guerre froide. Chiffre suivant. 500 000. La force de l'OTAN, la KFOR, avec plus de 500 000 hommes des pays de l'OTAN et des pays partenaires ont assuré la sécurité au Kosovo. Les élections l'année dernière au Kosovo ont montré les résultats, le succès de la KFOR qui a permis d'éviter la violence qui avait perturbé les élections précédentes. Ensuite, 352 000. Nous avons ouvert un nouveau chapitre en Afghanistan. En 2014, nous avons achevé la plus grande opération de combat de l'histoire de l'Alliance. 352 000 soldats et membres de la police afghane que nous avons formés ont assumé la responsabilité de la sécurité de leur pays. Et nous avons lancé une nouvelle mission pour les entraîner, les conseiller, les assister. Le chiffre suivant, c'est celui de 1. L'année dernière, il y a eu une seule attaque de pirates au large de la Corne de l'Afrique par rapport à 150 en 2011. Nous continuons à travailler avec nos partenaires internationaux pour lutter contre les menaces telles que la piraterie et le terrorisme. Le dernier chiffre est 852. Nous estimons que les alliés de l'OTAN ont dépensé 852 milliards de dollars dans les budgets de défense l'année dernière. L'OTAN reste la plus forte alliance militaire au monde. Mais comme vous pouvez le voir dans notre rapport annuel, il y a eu un déclin progressif dans le niveau de dépenses pour la défense en Europe depuis 1990. Et ce déclin s'est poursuivi l'année dernière. En 2014, les alliés européens ont consacré quelque 250 milliards de dollars à la défense, ce qui était une réduction de 7 milliards de dollars ou de 3%. Pourtant, l'année dernière, nous avons par ailleurs pris un engagement important, celui d'arrêter les coupes dans les dépenses pour la défense, avec pour objectif de dépenser 2% du PIB d'ici une décennie sur la défense. Donc nous devons dépenser davantage et de façon plus efficace pour que nos forces soient à même de contrer toute menace. Nous avons vu des pas dans la bonne direction, mais il reste encore un long chemin à parcourir. Il y a encore un décalage important entre les défis sécuritaires auxquels nous sommes confrontés et les ressources que nous consacrons à notre défense. Et il y a encore des disparités qui continuent à exister de part et d'autre de l'Atlantique et en Europe elle-même. Il y a un petit peu plus de 4 mois, je prenais la parole pour la première fois en tant que secrétaire général. J'avais à ce moment-là indiqué quelles étaient mes 3 priorités. Que l'OTAN reste forte, de maintenir la stabilité de notre voisinage en travaillant avec nos partenaires, et que le lien entre l'Europe et l'Amérique du Nord demeure solide comme la roche. Ces priorités sont plus importantes que jamais. L'année dernière, l'ordre établi dans la zone euro-atlantique a été menacé. Mais comme notre rapport annuel le montre clairement, l'OTAN est en train de s'adapter et tourner vers l'avenir. Nous sommes déterminés à protéger nos valeurs et à assurer la sécurité de nos pays. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. Je vais commencer de ce côté-ci et ensuite passer vers la gauche. Alors, commençons par le Wall Street Journal. Je voudrais en savoir un petit peu plus sur la réunion des ministres de la Défense la semaine prochaine. Quelles sont les décisions que vous attendez? Et pourriez-vous nous en dire plus sur la force à haut état de préparation? Quels sont les paramètres du point de vue des chiffres, de composition et de son fonctionnement? Les réunions des ministres de la Défense vont être des réunions importantes. Ça sera la première réunion des ministres de la Défense depuis le sommet du Pays de Galles. Les décisions seront prises concernant la taille, la composition de cette force fer de lance, et qui est sans doute la partie la plus importante du plan d'action pour la réactivité. Et je m'attends à ce que nous soyons en mesure d'annoncer les pays qui vont être les pays cadres, qui vont être responsables de fournir les forces pour cette force fer de lance. Je ne peux pas encore vous dire aujourd'hui, vous annoncer ces pays, mais j'espère pouvoir le faire dans quelques jours. Et à ce moment-là, nous serons en mesure aussi de vous donner des chiffres plus précis, mais il s'agit d'une force de la taille d'une brigade. Et nous prévoyons qu'il y ait certains éléments qui puissent être prêts en quelques jours et le reste des forces, peu de temps après, prêts à être déployés. Mais tout cela sera annoncé en détail la semaine prochaine. De plus, les ministres de la Défense devraient pouvoir décider de la mise en place des unités d'intégration de forces de l'OTAN. Ces unités d'intégration de forces de l'OTAN sont des éléments de commandement et de contrôle qui vont être mis en place en Estonie, en Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie et Bulgarie. C'est important parce que ces éléments de commandement seront les premiers éléments de ce type dans ces 6 pays d'Europe orientale et ils assureront le lien entre les forces nationales et les forces de l'OTAN. Donc ils vont jouer un rôle clé. Ces forces auront un rôle de planification, d'organisation des exercices. Ils assureront en quelque sorte la liaison entre les forces nationales et les forces de l'OTAN pour faciliter la planification et des éléments de commandement clés pour les renforcements. De plus, en plus de cette force fer de lance et de ces éléments de commandement, nous sommes aussi en train de renforcer la NRF, la force de réaction de l'OTAN, pour la rendre plus prête et la renforcer. Tout cela fait partie de l'adaptation de la posture de force de l'OTAN, qui est le plus gros renforcement de la défense collective depuis la fin de la guerre froide. Médias géorgiens. Monsieur le secrétaire général, j'ai été très heureuse de constater que la Géorgie est mentionnée dans le rapport annuel, là où vous parlez de la politique de la porte ouverte des pays candidats. Et j'aimerais vous demander comment l'OTAN a l'intention d'appuyer la Géorgie en 2015 et sachant que les pays candidats ont beaucoup de besoins. J'aimerais savoir ce que vous en pensez et comment le paquet substantiel de mesures va être mis en œuvre. La Géorgie est un partenaire que nous apprécions beaucoup. Nous aurons la semaine prochaine une réunion des ministres de la Défense de l'OTAN avec leurs collègues de la Géorgie au sein de la commission entre OTAN-Géorgie, ce qui témoigne de l'étroite collaboration avec ce pays. Et je me réjouis de cette réunion qui aura lieu la semaine prochaine. Nous sommes en train de mettre en œuvre ce qui a été déjà décidé, ce qui veut dire que nous avons commencé à mettre en œuvre ce paquet détaillé, global, avec un soutien à la Géorgie pour la réforme, la modernisation de ses forces armées. Nous sommes en train de mettre en place un centre d'entraînement avec des formateurs de l'OTAN qui vont travailler avec le personnel militaire géorgien pour les former, les entraîner. C'est une partie importante de ce paquet de mesures. La Géorgie est un partenaire qui apporte une contribution réelle à nos efforts communs en Afghanistan, dans d'autres opérations. Et je suis très reconnaissant à ce pays de ses contributions et de ce partenariat. Encore deux questions de ce côté-là, puis nous allons passer à d'autres représentants des médias. Médias du Danemark. Je voudrais vous demander, le ministre de la Défense de la Russie a dit aujourd'hui que la Russie allait procéder à des renforcements dans les zones stratégiques. Est-ce que cela vous inquiète et est-ce que cela souligne la nécessité de la force fer de lance? Réponse. Ce que nous constatons en Russie, c'est qu'il y a une augmentation des dépenses pour la défense. Et maintenant, malgré la crise économique, malgré les problèmes financiers que rencontre la Russie, il continue à accorder la priorité aux dépenses en matière de défense. Durant la période où l'OTAN, elle, a réduit ses dépenses de la défense, nous avons vu cette augmentation du côté russe. De plus, la Russie a développé des capacités, a renforcé ses capacités, par exemple, à mener des exercices éclairs, à déployer des dizaines de milliers d'hommes à très court préavis en quelques heures ou quelques jours. Donc, en plus de dépenser davantage, de développer de nouvelles capacités, d'avoir un haut niveau de préparation, nous voyons aussi que la Russie est prête à employer sa force. Nous l'avions vu en Géorgie, en Moldavie, et maintenant en Ukraine, en Crimée et à l'est de l'Ukraine. Et la Russie continue à investir dans sa défense. tout cela, bien sûr, fait partie de ce nouvel environnement sécuritaire auquel nous sommes confrontés. Et c'est une raison pour laquelle nous avons décidé de changer notre posture de défense pour que nos forces soient mieux préparées. Et c'est pourquoi nous avons décidé de renforcer notre présence sur une base de rotation dans la partie orientale de l'Alliance, avec les mesures d'assurance, donc davantage d'avions, davantage de forces terrestres, en mer. Et c'est la raison pour laquelle nous mettons en place cette force fer de lance. Et nous avons déjà la solution intérimaire avec l'Allemagne, les Pays-Bas et la Norvège, qui sont les principaux pays contributeurs. Nous avons un représentant des médias russes, Ria Novosti. Monsieur le secrétaire général, vous avez dit la semaine dernière que vous êtes prêt à rencontrer le ministre Lavrov la semaine prochaine. Éventuellement, est-ce que cela va se faire lors de la conférence de Munich ? Et quels sont le type de contact que vous comptez avoir avec lui pour parler de la crise ukrainienne? Je peux confirmer ce qui a été dit il y a quelques jours par Sergueï Lavrov, à savoir que nous sommes en train d'envisager une réunion à Munich en marge de la conférence de sécurité. À la fois, Sergueï Lavrov et moi-même serons présents pour cette conférence de Munich, donc il serait relativement normal que nous nous rencontrions, puisque à l'OTAN, nous avons décidé de suspendre la coopération pratique avec la Russie, mais nous avons décidé aussi de maintenir les canaux de communication politique ouverts. Et particulièrement quand les temps sont difficiles, comme c'est le cas en ce moment, il est d'autant plus important de se rencontrer, de se parler, y compris des questions difficiles, et de maintenir ces canaux de communication politique. Vous entendez médias allemands? Oui, j'ai une question concernant la Grèce. Est-ce que la position du nouveau gouvernement grec vous affecte du point de vue de l'unité de l'Alliance et de leur position vis-à-vis de la Russie? L'OTAN est une alliance de 28 démocraties. Donc nous avons des élections, les gouvernements changent, parce que les électeurs ne votent pas toujours de la même façon. Cela fait partie de la démocratie. Et c'est l'une des forces de l'OTAN que depuis tant d'années, nous avons réussi à être une alliance forte avec des gouvernements démocratiquement élus, provenant de différents camps politiques, ayant parfois des positions différentes, mais pouvant travailler ensemble à la sécurité commune et travaillant ensemble. Je me réjouis de travailler avec le nouveau gouvernement grec. Je pense rencontrer le nouveau ministre de la Défense grec la semaine prochaine. Nous espérons qu'il va pouvoir venir à cette réunion et je serai heureux de discuter avec lui pour voir comment nous pouvons continuer à travailler avec la Grèce comme un allié solide qui a toujours contribué à notre défense collective depuis de nombreuses années. Je ne m'attends pas à ce que cela change. Bonjour et bonne année à vous. J'aimerais vous demander, vous avez parlé du renforcement des partenariats, donc comment prévoyez-vous de renforcer les partenariats dans le monde arabe ? Je commencerai par souligner l'importance de ces partenariats. En effet, pour l'OTAN, il est très important pour nous de pouvoir travailler avec nos partenaires à travers le monde, mais aussi dans notre voisinage immédiat, pour travailler à la stabilité dans notre voisinage. C'est important à l'Est, avec des partenaires comme la Géorgie, l'Ukraine, la Moldavie et d'autres, mais c'est aussi important au Sud, y compris dans le monde arabe. Juste avant Noël, je me suis rendue avec le Conseil de l'Atlantique Nord en Jordanie et nous avons rencontré les pays qui participent à ce que nous appelons le dialogue méditerranéen. Et nous nous sommes rendus également à Doha où nous avons rencontré plusieurs pays de la région du Golfe. L'objectif est de travailler ensemble pour améliorer l'interopérabilité, les liens entre nos forces armées, les réformes de la défense, la lutte contre le terrorisme, pour aider nos partenaires à renforcer leur capacité à créer de la stabilité dans leur région. L'idée étant qu'il vaut mieux, à long terme, projeter la stabilité en travaillant avec nos partenaires plutôt que de devoir déployer un nombre important de forces. Nous devons bien sûr être prêts et rester prêts à l'avenir à déployer des forces, y compris en nombre important, mais plus nous travaillons avec nos partenaires, mieux cela vaut. Par exemple, avec la Jordanie, où c'est un pays arabe qui est un partenaire de l'OTAN et nous nous en félicitons. Représentant de la télévision suisse, monsieur le secrétaire général, l'OTAN a toujours suivi ce qui a été fait à l'Union européenne, les sanctions économiques. Réponse, oui, nous appuyons ces sanctions économiques car nous pensons qu'il est important que la Russie comprenne qu'il y a des conséquences quand on viole le droit international, quand on a recours à la force pour changer les frontières, pour annexer des parties de territoire d'un autre pays. Ce n'est pas l'OTAN qui prend les décisions des sanctions économiques. C'est une décision prise par l'Union européenne, par les États-Unis et d'autres pays, mais je me félicite de ces sanctions. Parce que si la seule autre solution, c'est soit de rester les bras croisés ou d'avoir recours à la force militaire, eh bien tout le monde comprendra que les sanctions sont le meilleur choix, puisqu'il ne peut jamais y avoir de solution militaire à une crise comme celle de l'Ukraine. Ce qu'il nous faut, c'est une solution politique négociée sur la base des accords de Minsk. Et pour y arriver, la Russie doit cesser son soutien aux séparatistes. NPR, nous revenons dans l'autre sens. NPR-CBS. Pour ce qui est des exercices russes, il y a eu hier une perturbation du trafic aérien britannique du fait de vol. Nous avons déjà parlé du risque de ces intrusions dans l'espace aérien pour la circulation aérienne civile et aussi dans la zone baltique où des exercices vont avoir lieu à Kaliningrad. Ce qui provoque beaucoup de nervosité dans les États baltes. Est-ce que c'est une provocation? Est-ce que vous pensez que le président Poutine cherche ici à rendre les alliés nerveux? Pour ce qui est des exercices, il est important de souligner que tout pays a le droit de mener des exercices, tant que cela reste dans le respect des engagements pris au niveau international. Et je m'attends à ce que la Russie se comporte ainsi. Les exercices font partie des activités normales de nos militaires. Mais ces exercices, ainsi que la présence renforcée dans l'espace aérien des appareils russes à proximité de nos frontières, tout cela fait partie d'un schéma où nous voyons que la Russie cherche davantage à s'affirmer, qu'il y a notamment ces exercices dits « éclairs » et qu'il y a un renforcement de leur présence avec ces appareils militaires. Donc ce comportement beaucoup plus déterminé de la part de la Russie nécessite une très grande vigilance de notre part. C'est pourquoi nous avons renforcé notre police du ciel et c'est pourquoi nous avons eu 3 fois plus d'interceptions dans la région baltique l'année dernière par rapport à 2013. Et c'est la raison également pour laquelle nous sommes en train d'adapter nos forces armées pour faire face aux changements à l'Est. Donc ces exercices, bien sûr, sont des exercices auxquels tout pays a le droit, mais du fait du schéma que nous constatons maintenant, l'OTAN est obligée de s'adapter à ce nouvel environnement sécuritaire. Est-il possible de mettre en œuvre tous ces renforcements de la défense collective en même temps, alors que les dépenses, elles, des budgets de défense, continuent, les niveaux de budget de défense continuent à chuter? Réponse, nous sommes toujours à même d'être plus efficaces, au moins en coopérant davantage, en trouvant des solutions plus intelligentes, donc en dépensant mieux nos ressources. C'est pourquoi nous visons la défense intelligente, mieux dépenser nos budgets de la défense. Mais à long terme, on ne peut pas arriver à en faire toujours plus avec moins d'argent. C'est pourquoi il faut mettre un terme aux réductions budgétaires et recommencer à augmenter nos budgets de la défense. Cela fait partie de cette adaptation, de cette modification de la posture de défense de l'OTAN. Il y a le plan d'action pour la réactivité, d'une part, mais aussi augmenter les dépenses pour la défense. Et ce que nous avons fait jusqu'à présent, c'est tout ce qui a été possible de faire sans augmenter les budgets de défense. Mais nous n'allons pas pouvoir continuer à augmenter le nombre d'exercices, à investir dans de nouveaux équipements, tout en continuant à réduire ces budgets de défense. C'est pourquoi il faut y mettre fin et progressivement augmenter ces budgets. Les médias japonais, je voudrais vous poser une question concernant l'État islamique. Il y a un otage japonais qui avait été capturé et vous avez parlé des défis très graves que cela représente. Pouvez-vous nous dire quelle est la possibilité pour l'OTAN de déployer des forces en Irak pour lutter contre l'État islamique? Tous les alliés de l'OTAN contribuent d'une façon ou d'une autre à la coalition menée par les États-Unis contre Daesh. Je m'en félicite. J'estime que c'est important, même si je pense que des frappes aériennes ne suffiront pas à résoudre ce problème. Néanmoins, l'opération militaire de la coalition est déjà importante. Il y a par ailleurs l'entraînement des forces au niveau local, qui est aussi un facteur important. Plusieurs alliés de l'OTAN s'y attellent. Et puis, nous avons reçu une demande du gouvernement irakien il y a quelques semaines pour nous demander à les aider à renforcer leur capacité de défense. Nous sommes en train d'examiner cette demande. Nous avons rencontré une délégation irakienne récemment et nous sommes en train de voir comment nous pouvons répondre à cette demande pour les aider. Donc, nous sommes en train d'en discuter en ce moment avec le gouvernement irakien. Je souligne par ailleurs le fait que l'OTAN joue un rôle dans la lutte contre le terrorisme, notamment par l'échange d'informations concernant les combattants étrangers. C'est une véritable menace pour tous les pays alliés et c'est pourquoi il est important de continuer à améliorer ces échanges d'informations sur ces combattants étrangers. Par ailleurs, au sein de l'Alliance, nous travaillons à développer et financer des technologies qui vont nous aider à détecter et nous protéger contre, par exemple, des explosifs. Cela fait aussi partie des activités de contre-terrorisme. Et puis, n'oublions pas que la plus grosse opération militaire que nous ayons jamais menée, l'opération en Afghanistan, a été une réponse directe aux attaques de terroristes du 11 septembre. Donc, cette opération s'est inscrit très clairement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le renforcement des capacités, aider nos partenaires en Afrique du Nord, dans les pays arabes, en Jordanie, tout cela fait partie de cette lutte contre le terrorisme. Deux ou trois questions par ici. Tout d'abord, un représentant des médias ukrainiens. Monsieur le secrétaire général, ma question est la suivante. Il y a quelques jours, vous avez annoncé que la Russie reste un partenaire de l'OTAN pour lutter contre le terrorisme. Mais il y a quelques jours, le Parlement ukrainien a pour sa part déclaré que la Russie était un pays agresseur et l'Ukraine s'est tournée vers l'OTAN et vers d'autres organisations internationales pour leur demander de reconnaître que les républiques autoproclamées du Donbass, des autres régions, sont des organisations terroristes, de la même façon que cela s'est fait dans le cas d'autres organisations terroristes. Est-ce que vous pouvez à la fois donc coopérer avec la Russie contre le terrorisme et coopérer avec l'Ukraine, qui est victime de ces actes terroristes ? Ce que l'OTAN a fait, c'était de suspendre la coopération pratique avec la Russie. Donc il n'y a plus de coopération pratique, notamment dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Ces activités sont suspendues déjà depuis avril dernier. Par contre, nous avons préservé des voies de dialogue politique. C'est important, notamment en ce moment où la situation est très difficile. Le dialogue politique est d'autant plus nécessaire. C'est pourquoi nous avons condamné très fortement le renforcement de la violence qui a été constaté en Ukraine orientale, causée par les séparatistes soutenus par la Russie. Comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, ces forces obtiennent des équipements lourds de la part de la Russie. Ils bénéficient d'un soutien de la Russie et des forces russes sont présentes à l'est de l'Ukraine. Mais est-ce que vous allez déclarer que ces républiques autoproclamées sont des organisations terroristes ? Non, ce que nous faisons, c'est que nous condamnons la violence que nous constatons en Ukraine orientale. Nous appelons la Russie à mettre fin à son soutien aux séparatistes dans ces régions et nous appelons toutes les parties à faire tout ce qui est possible pour mettre en œuvre les accords de Minsk et arriver à une solution de paix sur cette base. Radio Allemande, deux questions sur la communication avec la Russie. Il y a une initiative allemande visant à mettre en place une ligne d'appel téléphonique d'urgence entre militaires avec la Russie. Qu'en est-il ? Et vous avez dit que vous pensez rencontrer le ministre Lavrov la semaine prochaine. Avez-vous l'intention de rencontrer aussi M. Poutine ou bien préférez-vous vous abstenir ? Pour ce qui est des communications avec la Russie et des communications militaires, les lignes de communication restent ouvertes. Les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN ont décidé en décembre que cette période de tension, il faut garder ces communications militaires pour éviter tout incident et que ces canaux doivent donc rester ouverts et utilisés quand cela est nécessaire pour éviter tout malentendu possible concernant les activités militaires. Je vous dis cela parce que nous avons constaté des activités militaires croissantes, renforcées à proximité des frontières de l'OTAN. Et bien sûr, cela augmente le risque de malentendus, sachant que nous renforçons aussi notre présence aux frontières de la Russie. C'est pourquoi il faut que les lignes de communication entre militaires restent ouvertes pour éviter tout malentendu, pour pouvoir procéder à une désescalade s'il y a un risque de perte de contrôle de la situation. Donc je me félicite là du soutien apporté par l'Allemagne au fait de maintenir, de préserver ces canaux de communication militaire. Comme je l'ai dit, je suis prêt à rencontrer Lavrov en marge de la conférence de Munich, mais il n'y a pas d'autres rencontres de prévues. Dernière question. Bonjour, Monsieur le Secrétaire général, et bonne année. Comme vous le savez, les dirigeants africains sont réunis en ce moment même à Addis Abeba et lors de ce sommet vont discuter de la situation au Nigeria, notamment avec Boko Haram. Est-ce que l'OTAN est en mesure d'apporter un soutien matériel aux troupes africaines qui sont engagées dans cette région pour lutter contre le terrorisme et Boko Haram? Puis deuxième question. Quand vous avez parlé de vos priorités, je n'ai pas entendu l'Afrique. En tant que nouveau secrétaire général, qu'avez-vous l'intention de faire pour renforcer les relations et le partenariat entre l'OTAN et l'Union africaine? Merci. Eh bien, je pense avoir souligné dans mon introduction le fait que j'ai trois priorités. Tout d'abord, que l'OTAN reste forte. Mais deuxièmement, faire en sorte que notre voisinage reste stable en travaillant avec nos partenaires. Eh bien, cela inclut différents pays en Afrique. Comme je l'ai dit juste avant Noël, nous avons une réunion dans le cadre du dialogue méditerranéen. Il y a plusieurs pays d'Afrique du Nord qui participent. Nous considérons que ce partenariat est important pour créer plus de stabilité, pour lutter contre le terrorisme, pour aider ces pays à renforcer leur capacité de défense. Cela fait partie de ce dialogue avec des pays d'Afrique pour les aider à renforcer la stabilité dans leur pays et dans leur région. Et je souhaite renforcer notre coopération avec l'Union africaine. Je vais certainement voir comment nous pouvons non seulement travailler avec des pays en Afrique à titre individuel, mais aussi renforcer nos liens avec l'Union africaine. Il y a bien sûr l'Afrique du Nord qui se trouve à proximité des frontières de l'OTAN et certains alliés de l'OTAN participent à la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme en Afrique. Les forces françaises, par exemple, sont présentes. D'autres alliés de l'OTAN contribuent à ces efforts pour lutter contre l'extrémisme et la violence en Afrique. Merci beaucoup. Ceci conclut cette conférence de presse. Il y aura néanmoins une possibilité d'avoir des échanges informels avec le secrétaire général pendant quelques minutes.